C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Premier sujet pour les commissaires, après qu'on aura les rapports, évidemment, puisque c'est vendredi. Christian Dubé, le ministre de la Santé, va présenter un projet de loi. C'est assez étrange, c'est-à-dire c'est un projet de loi qualifié de mammouth, pour le mammouth de la santé. Et tout ça pour savoir un peu ce qui se passe dans le ministère, la circulation de l'information, la fluidité des données, qui permet aux décideurs d'avoir les bonnes informations entre les mains quand c'est le temps de prendre une décision, ce qui n'a pas été le cas, on s'en est rendu compte à la première vague de la pandémie. Alors, est-ce que ça veut dire que le gouvernement est ingouvernable, Luc?
Mais en tout cas, le titre laissait paraître ça. C'était un titre cruel. Le gouvernement passe une loi pour savoir ce qui se passe dans son réseau. Oups, ça fait broche à foin. Ça fait, tu dis, mon Dieu, comment ça se fait qu'ils ne savent pas. Puis en plus, tous les tableaux d'information puis les indicateurs, tout ça, ça a commencé dans les années 90. Ça. C'est une mode de gestion qui date des années 90. Fait que là, on aurait comme 30 ans de retard. Dubé, c'est un gars qui a fait ça, lui, chez Cascade. Il y a eu un bel article dans l'actualité il y a quelques mois qui racontait que c'était un opérationnel, puis il a évité les gros systèmes d'information des années 2000 qui coûtaient des centaines de millions de dollars, là, puis qui mettaient les entreprises quasiment sur les genoux tellement que ça coûtait cher, des gros systèmes comme SAP. Et lui est allé avec une série d'indicateurs puis de systèmes d'information qui lui donnaient l'information qu'il avait besoin de savoir pour gérer ses usines. Fait qu'il s'est dit, je vais avoir la même chose dans la santé. Maintenant, est-ce que c'est pas gérer des papetières puis gérer de la santé, il est bien placé pour savoir que c'est pas la même chose, là. Moi, j'ai bien confiance en lui. Je trouve que des gars avec son profil, il en manque en politique. Des personnes qui sont opérationnelles, qui veulent avoir les informations de gestion pour améliorer la performance, il en manque. Je suis bien content qu'il fasse ça. Mais, ceci étant dit, quand tu as une population en santé, la différence, c'est que tu as des populations très différentes les unes des autres, avec des besoins différents. Une papetière, tu as des années de construction de machines qui sont différentes les unes des autres, mais là, c'est pas pareil. Là. C'est dans des régions où tu as plus de détresse, plus de vieillissement, plus de problèmes de santé mentale, plus de d'éloignement de la population, des habitudes alimentaires qui sont dictées par le manque de produits autour de chez eux. Toutes sortes de choses qui font que tu peux pas comparer exactement un hôpital, mettons, à Rouen, puis un hôpital à Montréal avec un hôpital à Gaspésie. Il le sait. J'imagine qu'il y a des solutions. J'ai hâte de les voir.
Nathalie.
Un ministre de la Santé qui dépose un projet de loi pour savoir ce qui se passe dans son ministère, c'est fou raide. C'est complètement fou, c'est surréaliste, absurde, limite kafkaïen. Imaginez, là, on prend quelques secondes là, pour dire le ministre de la Santé, là, qui est le ministère le plus important du gouvernement, je vous rappelle que c'est quoi? Plus de 52 milliards d'investissements des impôts et des taxes des contribuables. C'est vrai, effectivement, le terme consacré que tu as consacré, Paul, à ce ministère, mammouth, lui va très bien. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Un ministre, généralement, lorsqu'il arrive dans son ministère, on lui fait son briefing, il y a ses cahiers de briefing, il est censé savoir ce qui se passe dans son ministère. Là, que le ministre doit passer par l'Assemblée nationale, pas une directive, pas un décret, par l'Assemblée nationale, avec toute la lourdeur qui vient avec le processus d'adoption d'une loi. Attendez, là, moi, je crois rêver. Et ça démontre à quel point c'est devenu effectivement ingouvernable. Et le ministre de la Santé est très courageux depuis qu'il est en poste, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Luc. D'ailleurs, il a été désigné personnalité de l'année par le magazine L'Actualité. Nous avons un excellent ministre. Il aura besoin d'un peu de repos durant le temps des fêtes. J'ouvre une parenthèse parce qu'on se sent évidemment essoufflé avec tout ce qui se passe. Mais il veut changer la culture du réseau. Puis il nous dit, dans le fond, pour changer la culture du réseau, faut que moi, comme ministre, j'ai accès à toute l'information pour améliorer la vitesse de réaction du ministère.
Je vais te donner un exemple, parce que moi aussi, quand je vois ça, mon premier réflexe, c'est de dire, voyons donc. Mais en même temps, tu es obligé de changer des lois parce que tu arrives avec toute la notion de confidentialité. Tu peux avoir des portraits globaux sur, par exemple, la consommation d'opioïdes au Québec, sur des prescriptions, puis tu n'es pas capable de savoir, mais c'est qui les médecins qui sont, qui prescrivent plus parce que c'est confidentiel. On l'a vu dans la première crise. Il manque combien d'employés dans le réseau? On ne le sait pas trop. Ils sont pas là. Pourquoi? On poursuit les fax.
Ben, est-ce que c'est pour ça, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a besoin d'une loi? Parce que, comme tu dis, normalement, décret ou une réorganisation.
Oui, peut-être. Mais ça prend, j'imagine, des changements de règles puis de lois.
Pour aller chercher des informations nominatives.
Oui, mais en même temps, le ministre a dit, rappelez-vous, toutes ces informations-là, on parle de l'accès, par exemple, les médecins, là, on veut savoir quelle est leur productivité, les médecins de famille. Il dit, les informations vont être anonymes. Les PDG de réseau vont pouvoir y avoir accès. Moi, comme ministre, je vais pouvoir y avoir accès. Mais je sais pas si docteur Paul Arcand, par exemple, je pourrais pas savoir combien de patients il reçoit ou combien d'heures il fait dans une semaine. Mais cette nouvelle arrive au même moment où on apprend le décès d'un homme à Sainte-Terre, Robert Demers, qui a perdu la vie. Bon, là, il y a tout, évidemment, on ne sait pas là, ce qu'il a perdu la vie parce que l'urgence de Sainte-Terre est fermée.
C'est M. Genet.
Mais, excusez-moi, M. Genet, tout à fait. Alors, mais ça démontre à quel point, dans le fond, notre système est toujours sur le bord, tu sais, comme de la crise de nerfs. En fait, tu sais, c'est le réseau est toujours sous tension. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. Et pendant ce temps-là, c'est les patients qui écopent. Puis on en a parlé tellement souvent, mais je me permets de le rappeler. On a un réseau, il y a trop de bureaucratie, trop de gestionnaires. Je dis pas tous les gestionnaires. Trop de gestionnaires qui se protègent les fesses, hein, qui protègent leurs fesses parce qu'ils sont plus préoccupés par leur propre performance de gestion que la qualité des services qui est donnée. Trop de syndicats qui ne collaborent pas, trop d'employés qui sont démotivés. On nivelle depuis trop d'années par le bas plutôt que par le haut, alors qu'on consacre presque la moitié du budget du Québec au réseau de la santé. Alors, je me dis, là, on atteint, là, la pandémie nous a révélé qu'on a atteint une espèce de mur, de limite qui ne je vois pas comment on pourrait continuer encore 5 ou 10 ans à ce rythme-là, à ce régime-là. Là. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme si c'est le chien qui passe son temps à courir après sa queue. Là.
Est-ce que le ministre est arrivé à la conclusion qu'il y avait des problèmes de performance qui sont liés à des individus, comme par exemple l'absentéisme dans telle région, dans tel corps d'emploi ou dans telle fonction d'un hôpital?
Peut-être qu'il n'est même pas capable de le savoir.
Mais oui. À partir de quand il va le savoir, ça n'aura rien réglé. Il va juste le savoir parce que après ça, il va y avoir 1000 arguments pour dire oui, mais dans notre situation, on a des plages horaires qui sont jamais comblées parce que on a des relations toxiques avec le directeur, etc. Là, le vrai travail commence. C'est-à-dire que quand tu as de l'information, tu dis, OK, ça marche pas. Mais après, il faut que tu ailles le régler après, là. L'indicateur, il règle rien. Le fait d'avoir l'information, ça règle rien. Après, il faut que tu ailles le régler, le problème. Et là, moi, j'ai pas vu, de la part de M. Legault jusqu'à présent et M. Dubé, une approche réformiste. J'ai vu, on pitche l'argent sur les problèmes. On a besoin d'en faire de le pitcher parce que c'est une urgence. On va augmenter le salaire des infirmières. On va augmenter le salaire des préposés. On va augmenter le salaire des éducatrices. Mais après ça, c'est quoi les conditions d'emploi? C'est quoi la réalité? Est-ce qu'il y a dans une région, par exemple, une urgence qui est constamment pleine parce qu'il n'y a aucun service de première ligne? Tu régleras pas ça avec un indicateur. Fait que là, j'espère que M. Dubé va faire preuve d'autant de pugnacité dans la deuxième partie de la résolution du problème que dans la première.
Parfait, on s'arrête là-dessus et au retour, vendredi, rapport de la commission des deux commissaires.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, c'est le moment des rapports. D'abord, Nathalie.
Oui, grosse semaine, gros rapport. Catégorie du Petit Québec, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la publicité avec Guillaume Lemaitre-Vierge. Deux textes publiés par la journaliste Mylène Moisan dans Le Soleil. Elle a levé le voile sur une réalité inconnue du public. Elle a dénoncé le gaspillage de nourriture emballée dans les CHSLD, en fait, dans le réseau de la santé. Il faut savoir qu'il y a 200 000 repas par jour qui est donné dans le réseau. En fait, des Petits Québec, des compotes, des jus, des yogourts, des biscuits, tout ça est jeté après chaque repas à la poubelle, alors que les résidents, par exemple, en CHSLD, n'y ont pas touché. Je trouve ça absolument scandaleux et je lui dis bravo. Il faut que les gestionnaires se réveillent dans un contexte où il y a 600 000 Québécois qui, à chaque mois, s'adressent aux banques alimentaires pour recevoir de l'aide. Il y a quelque chose qui, en fait, ça relève de l'hérésie, littéralement. La décision du juge Jean-Claude Gagné qui m'a fait titiller cette semaine, il y a quelque chose qui m'échappe. Peut-être vous vous rappelez, Simon Lamarre, 40 ans, enseignant du primaire et chargé de cours à l'université, condamné à 40 ans pour voyeurisme. Il a obtenu l'absolution du juge. En fait, on s'est rendu compte que le juge a appuyé sa décision sur le fait que le gars a un statut de chercheur. Il détient un doctorat. Alors, c'est comme si, dans le fond, son statut de chercheur et le fait qu'il ait un doctorat était plus important que le crime qu'il a commis. Ça a suscité, évidemment, l'indignation dans la population. Le ministre de l'Éducation, alors qu'on ne l'avait pas vu venir, Jean-François Roberge, a décidé, lui, de contre-attaquer et de révoquer son son brevet d'enseignement. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est une décision qui était applaudie et saluée par de nombreux citoyens. La citation de la semaine pour moi, compte-t-il à perdre à m'essayer? Patrick Roy, qui affiche publiquement son intérêt pour le poste de directeur général du Canadien de Montréal. Moi, pour une première déclaration, je trouve qu'il est allé fort. Il a dit beaucoup de choses. Il dit Timmins, c'était le problème. Bergevin a perdu son poste à cause de lui. Pour le Canadien, ça prend un reset plutôt qu'une reconstruction. Pas de problème à travailler en équipe, a-t-il dit. Alors, Gorton lui semble un gars passionné. En tout cas, bref, il a littéralement préparé le terrain pour sa candidature au poste de directeur général du Canadien. Et en terminant, catégorie bonjour la police, ben, j'ai nommé le SPVQ avec cette quatrième vidéo qui circule. On parle évidemment, vous l'avez vu, là, intervention musclée. C'est la première fois que le SPVQ se retrouve autant sur la sellette sous le feu des projecteurs. On aura une réponse dans 6 mois, mais ce que je souhaite vous dire ce matin, il y a toujours 2 côtés de médaille. Il y a des informations qui ne peuvent pas être dévoilées sur la place publique, mais vont peut-être, si un jour elles le sont, nous permettre de relativiser la façon dont les policiers sont intervenus sur le terrain. Et en terminant, mention spéciale au ministre Geneviève Guilbeault et Lionel Carman pour leur annonce cette semaine, bracelet anti-rapprochement et la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse. 2 importantes mesures et projets de loi qui vont changer la donne au Québec. Enfin, c'est ce qu'on espère.
Luc? Moi, c'est des informations qui m'ont laissé bouche bée cette semaine. La première, c'est la jeunesse atimakek qui se dote d'une stratégie pour un avenir qui reflète sa réalité. Et ça, là, quand ça, je viens de le dire, là, tout le monde, ah, OK, on passe à la suivante. Là,
tu parles des Atikamekw, là,
ouais.
C'est ça?
Oui. Tu sais, s'ils avaient fait une déclaration pour dire on a subi du racisme ou je sais pas quoi, ça ferait la une des journaux, puis ça serait, on en parlerait, on débattrait, il y aurait des chroniques. Mais là, on a une jeunesse qui se prend en main, qui dit OK, c'est où l'avenir? C'est quoi l'avenir pour nous au sein de notre nation, puis de ce pays? Par quel bout on doit prendre ça? Et là, ils se posent des questions sur la langue, la culture, l'éducation, la santé, la bien-être. Puis tu regardes la tronche de ces jeunes-là, le dynamisme. Ce qui les a amenés à vouloir faire cet état de fait-là, ils ont fait des sommets, ils se sont posé des questions, ils se prennent en main, ils ont de l'autonomie. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Tu sais, des fois, là, moi, je vais t'avouer quelque chose. J'accepte jamais quand on me traite de raciste. Quelqu'un qui me traite de raciste, oublie ça, passe à l'appel suivant. Je suis pas raciste, j'ai pas
Mais
ça dans
le C'est jamais arrivé dans ta vie, ça?
De quelqu'un me traite de raciste? Ben, tu sais, collectivement, là, tu sais, les Blancs, vous êtes racistes. Ouais, non, ouais, je suis pas raciste. Ouais. Oublie ça, je suis pas raciste. Mais là, je me suis trouvé un brin raciste. Parce que j'ai regardé la photo, j'ai regardé le texte, puis je me serais pas attendu de ça. Je m'attendais pas à ce niveau-là de performance, de dynamisme. Et je me disais, hey, t'étais un raciste.
Ben, t'as des préjugés. Oui,
préjugés. Aussi informé que, tu sais, je suis dans la catégorie informée, hein, dans la population.
On espère,
là.
Oui.
Ouais, ben, crime, j'ai été surpris pareil. Imagine-toi. L'autre affaire qui m'a laissé la mâchoire sur le chest, c'est la...
Toujours l'image.
J'ai montré, c'est ça, que j'imagine la scène. Très
ouais,
bien.
Oui. M'a fallu un set de cordes, toi, pour la ramener. C'est l'Allemagne qui décide de rendre la vaccination obligatoire. Hey, attends une minute, toi.
Oui, après l'Autriche,
oui. Oui, mais attends une minute. Non, premièrement, tu es dans un pays où il y a 33% de gens qui sont pas vaccinés, dans un pays où il y a une résistance féroce à la vaccination. Alors, ça va fonctionner comment, ça? Contravention, interpellation, barrage routier, interdiction de circuler, ça va marcher comment, ça? Ils ont du nerf, en mots, t'as dit. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Je vais suivre ça, moi, j'ai acheté le popcorn, puis tout, je suis prête, là. Je veux dire, hey, tabarouette, l'Allemagne, toi. Incroyable. Le plus gros pays d'Europe, le pays le plus riche d'Europe aussi. J'ai hâte de voir si ça va faire des flamèches. L'autre affaire qui m'a vraiment surpris, mais là, en mode... c'est pas la mâchoire sur le chest, là, c'était en mode... il me semble qu'il y a la réalité, puis après ça, il y a l'au-delà, tu sais. La prime des infirmières en région va passer à 30 000 $. Puis il va y avoir un 12 000 supplémentaire. La prime à l'embauche des infirmières. Un autre 12 000 supplémentaires pour la deuxième année. La CAQ se promène avec une souffleuse à billets verts. Puis là, il y a un problème. Attends une minute.
Ah ouais, les primes, le chèque.
Tu sais le truc là, pour isoler les greniers. Chic, chic. Là,
oh, ouais. La mousse.
La mousse là, pour isoler les greniers. Là. Ah ouais, toi, les billets verts. Mais à un moment donné, il faut que tu te poses des questions. Tu sais, M. Legault, c'est pas un péché, il l'avoue. Qu'il veut des gros emplois à 100 000 piastres dans les régions, il veut des mines, il veut de l'industrie, de la forêt, de la foresterie, etc. Quand tu dis que ça s'appelle du développement, mais que tu n'es pas capable de créer un milieu de vie autour de ça. Personne ne va l'habiter là. À peu près personne. Puis tout le monde en part. Mais là, ça s'appelle-tu vraiment du développement? Un développement, ça devrait être un milieu de vie. Il y a une ville qui croît, qui prospère. C'est agréable de vivre à cet endroit-là. Il y a une culture qui se développe, etc. C'est ça, du développement. C'est pas je pitche des jobs à 100 000 piastres avec des, en ouvrant des mines, puis après ça, je suis obligé d'amener ma souffleuse à argent pour pouvoir attirer du monde là. J'aimerais qu'on densifie puis qu'on approfondisse un peu le modèle de développement de nos régions. Monsieur Legault.
C'est terminé?
Non!
Ah, je pensais que t'avais fini.
Moi aussi, je pensais que j'avais fini, mais je viens de penser à quelque chose.
Ah bon?
Le prix du patinage. Non, c'est pas Valérie Plante avec les 250 policiers. Le prix du patinage, Kim Boutin puis Laurent Dubreuil, tabarouette. Allez voir ça sur YouTube. Moi, j'ai fait un peu de sport, là, du 400 mètres, 800 mètres, puis ça ressemble à ce genre d'effort-là. Là. À la fin d'un 400, d'un 800 mètres, t'as plus de sang dans le visage, tu vois plus clair, tellement que tu souffres. Puis là, tu la vois dépasser la coréenne, puis t'appuyer sur le gaz avec tout ce qu'elle a. Là, je me dis, oh, c'était incroyable, ça m'a tordu le cœur, je trouvais ça magnifique.
La mâchoire sur le chest.
Encore la mâchoire sur le chest. Bon, mais
prends ton set de cordes.
Puis pareil pour Dubreuil, incroyable, extraordinaire.
Merci, bonne fin de semaine à tous les deux.
C'est 23.